VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, des dignitaires de l'ethnie Kanuri, majoritaires au sein du groupe islamiste Boko Haram et aussi dans le nord-est du pays, ont exhorté les djihadistes à négocier avec le gouvernement nigérian pour mettre fin à leur sanglante insurrection. Pour le Forum des anciens du Borno, un groupe d'influence de l'ethnie Kanuri, composé de militaires et de notables à la retraite, il est temps que les insurgés déposent les armes, qu'ils se repentent et rejoignent le reste de la société 8 ans après le début du conflit qui a fait plus de 20 000 morts. Pour certains observateurs, l'appel lancé par les anciens du Borno cache surtout leur crainte de voir les Kanuri marginalisés par rapport à d'autres groupes importants comme les Hausa, dans un contexte de forte rivalité interethnique. Toujours en Afrique de l'Ouest, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, vante la bonne entente avec son voisin, le Burkina Faso. Un constat fait lundi à Ouagadougou, en présence de son homologue burkinabé, Rochmar Christian Kabore, pendant le 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
Ce sommet réunit chaque année les présidents ivoiriens et burkinabés. Abidjan et Ouagadougou ont connu une période de froid entre 2014 et 2015 à la suite de la présence de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par la rue. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la justice burkinabé. Les deux pays ont donc mis l'accent sur la coopération et le sommet de 2016 avait permis d'aplanir les différends. Par ailleurs, le Burkina dépend de son voisin pour l'accès à la mer ainsi que pour les importations. Monsieur Ouattara a indiqué que la situation continuera de s'améliorer pour chacun des États, considérant qu'il est important que ce sommet puisse montrer aux populations respectives que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avancent.
Au Gabon, les élections législatives qui devaient se tenir avant le 29 juillet 2017, après un premier report, ont été de nouveau repoussées à avril 2018 au plus tard. C'est ce qu'a décidé la Cour constitutionnelle gabonaise dans un arrêt rendu le 11 juillet qui n'a pas été rendu public immédiatement. Les élections des députés de l'Assemblée nationale doivent être organisées au plus tard au mois d'avril 2018, dit l'article 3 de cette décision du tribunal. L'argument avancé par la Cour est, je cite, « l'impossibilité de concilier le temps nécessaire dont les autorités compétentes doivent disposer pour faire aboutir le processus des réformes électorales décrétées par le dialogue politique souhaité par le président Ali Bongo et rejeté par son rival Jinping. » Dialogue qui a duré 2 mois en avril et mai et s'est soldé par des propositions de réformes institutionnelles. En conséquence, les députés de la 12e législature gabonaise en place depuis février 2012 et élus pour 5 ans resteront en fonction jusqu'à l'élection, a décrété la Cour constitutionnelle gabonaise. En RCA, le procureur de la Cour pénale spéciale s'est exprimé publiquement à Bambari pour la première fois depuis sa prestation de serment le 30 juin. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la justice lundi. Yakuba Ouedraogo.
Le procureur de la Cour pénale spéciale, Toussaint Moutazini, a affirmé que les victimes meurtries de Centrafrique ne seront jamais abandonnées. Nous déclarons solennellement que le temps de la justice et de la vérité est arrivé et que très bientôt, la paix va changer de camp, a martelé le magistrat congolais. La Cour pénale spéciale est chargée d'instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003. Créée en 2015, elle n'est pas encore opérationnelle et devrait commencer ses enquêtes vers le mois d'octobre 2017. Avant cette période, cette cour doit œuvrer à mettre en place le règlement de procédure et de preuves et faire en sorte que tous les magistrats nommés s'installent à Bangui et prêtent serment. En mai, l'ONU a publié un rapport recensant 12 ans de crimes commis par l'armée ou des groupes armés en Centrafrique en 2003 et 2015.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, c'est le bac depuis lundi pour plus de 71 000 candidats, toutes séries confondues. La particularité de cette année, c'est la création de deux nouveaux sites d'examen pour les réfugiés soudanais installés dans l'est du pays depuis 2003. Sur place, le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
C'est la sous-préfecture de Hadradit située dans le département d'Assunga à l'est du Tchad qui abrite ces deux nouveaux centres. 682 candidats réfugiés soudanais, dont 446 filles, passent cet examen national. C'est aussi un ouf de soulagement pour les candidats autochtones qui composent cette année près de leurs familles respectives, évitant ainsi de parcourir 200 km environ avec tout le risque pour passer cet examen à Abéché, chef-lieu de la région. Le préfet du département d'Assunga, Ismaël Nyamuta Diorbo, explique les raisons qui amène le gouvernement à créer ces deux centres à Hadradit qui n'est qu'une sous-préfecture et non à Adré, chef-lieu du département.
On a un peu discuté sur les choix. Adré est mieux en infrastructure. Mais l'UNHCR nous a dit qu'il prendrait en charge le déplacement de ses élèves, des élèves autochtones, hébergement et nourriture. Comme c'est la première fois qu'on a eu dans les années à venir, nous allons faire un transfert de ces centres dans le chef-lieu du département.
Pour l'UNHCR, cette initiative conjointe témoigne de l'hospitalité et de la solidarité du gouvernement tchadien à l'endroit des réfugiés vivant sur son sol depuis plus de 13 ans. Avec l'intégration du curriculum tchadien, ces réfugiés n'auront-ils pas de difficultés à poursuivre leur étude supérieure s'ils désirent regagner leur pays d'origine? Les explications de Yannick Yanke-Yanke, spécialiste en éducation au YCR.
Le bac au niveau du Tchad est un bac international. C'est plutôt un avantage parce qu'avec le bac au niveau du Tchad, l'accès à l'université est plutôt grandement ouvert. On a l'opportunité d'avoir des bourses comme celle d'AFI qui est grâce offerte par le gouvernement allemand à travers la fondation Einstein qui offre des assistances aux étudiants réfugiés au Tchad de poursuivre les études au niveau du Tchad.
Le constat sur le terrain montre que les garçons qui composent le bac sont moins nombreux que les filles, ce qui confirme la préoccupation des femmes recueillies dans les camps. Préoccupation selon laquelle, si les femmes avaient été instruites, le Darfour n'aura pas vécu la violence qui les a mis sur le chemin de l'exil. C'est pourquoi elles considèrent leur situation actuelle comme une opportunité qu'il faut exploiter en inscrivant les filles massivement à l'école afin de renverser la tendance. À la fin de la première épreuve, quelques candidats se disent confiants de leur réussite.
L'épreuve, ce n'est pas difficile. Je n'ai pas peur. Je suis sûr pour aborder les autres épreuves. Mais je suis capable de convaincre aussi.
Nous, on a trois sujets au choix. Un sujet, c'est la désertation, des contradictions des textes. Et trois commentaires composés.
Le sujet abordable, on
va attendre le résultat.
André Godumadingar, Hadjaradit, dans la région du Wadaï, pour VOA Afrique.
Politique en Angola, Luanda a rejeté les conditions de l'Union européenne pour l'envoi d'observateurs aux élections générales angolaises du 23 août. Le point avec Solange Nyamulisa.
Les Angolais ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un leur impose sa façon d'observer les élections et leur donne des leçons, a fait savoir le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Tchikoti. L'invitation à l'Union européenne reste ouverte, a-t-il dit, ajoutant cependant qu'il n'est pas question d'accord spécifique avec les organisations désireuses d'avoir des observateurs électoraux. Selon le chef de la diplomatie angolaise, aucune organisation internationale n'a imposé les conditions d'observation des élections. Seule l'Union européenne, lorsqu'elle a été invitée à envoyer des observateurs, a suggéré la signature d'un mémorandum d'accord, a souligné Georges Tchikoti. L'Union européenne demandait notamment d'avoir accès à l'ensemble des bureaux de vote du territoire angolais. Les élections du 23 août doivent marquer des 38 ans de règne du président angolais José Eduardo Santos. Au pouvoir depuis 1979, le chef de l'État sortant, dont le régime réprime toute contestation, a annoncé qu'il ne se représenterait pas.
La lutte contre les djihadistes au Proche-Orient, Moyen-Orient maintenant, l'émissaire onusien pour l'Irak se dit préoccupé par les représailles dont sont victimes les civils de Mossoul, soupçonnés de collaboration avec les militants du groupe État islamique. Les précisions de Michel Joseph.
S'adressant lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, Yann Koubis a fait état d'un soutien populaire croissant à Mossoul en faveur d'une punition collective des familles perçues comme s'étant associées aux djihadistes. Elles sont de plus en plus victimes d'actes d'éviction, de confiscation de leur maison et d'autres mesures de rétorsion, a expliqué l'émissaire onusien pour l'Irak. Yann Koubis a exhorté le premier ministre irakien Haider al-Abadi à agir de toute urgence pour faire cesser ces attaques. Des mesures prises contre des civils sans preuve suffisante violent la constitution irakienne et les obligations internationales de l'Irak, a-t-il souligné. L'émissaire onusien a par ailleurs appelé à la préservation des preuves des crimes commis par les militants islamistes aux fins de possibles poursuites judiciaires.
Actualité américaine pour terminer, les États-Unis ont dévoilé leur stratégie de renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ENA. Washington a annoncé lundi que priorité serait donnée à la réduction du déficit commercial américain. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.